VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, Media Dakar, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Ebola en République démocratique du Congo. 10 nouveaux décès ont été enregistrés en 4 jours dans la 10e épidémie de la fièvre hémorragique dans le pays, ce qui porte à 180 le nombre de morts à déplorer dans cette nouvelle éruption de la maladie affectant le Nord Kivu et la province voisine de l'Ituri dans l'est de la RDC. Au total, 285 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 250 confirmés et 35 probables, et un total de 180 décès, selon le bulletin du ministère congolais de la Santé daté de jeudi. Les autorités ont également annoncé que la gratuité des soins était effective dans 3 zones de santé, Beni, Mabalako et Oicha, depuis le 20 août 2018. Kinshasa promet d'étendre cette politique de gratuité à l'ensemble des aires de santé du territoire de Beni. RDC toujours, la présidence congolaise a accusé d'avoir une mainmise sur deux institutions chargées d'assurer la transparence du processus électoral dans le pays, à moins de 2 mois des scrutins cruciaux censés organiser la succession du président Joseph Kabila. C'est ce qui ressort d'une étude publiée jeudi par le GEC, le groupe d'études sur le Congo, basé à l'Université de New York, ici aux États-Unis. Selon les auteurs de ce document, une grande partie de la faiblesse de ces institutions provient de la capacité de la présidence de la République à contrôler, coopter ou diviser les différentes forces politiques et sociales qui devraient servir de contrepoids. Les élections présidentielles, législatives et provinciales clés du 23 décembre 2018 doivent organiser la succession du président Joseph Kabila, qui ne peut pas se représenter pour un nouveau mandat à la tête de l'État. Afrique de l'Ouest maintenant, au Burkina Faso, le ministre de la Défense, Jean-Claude Bouda, a déclaré que l'extension des attaques dans les régions de l'Est et de l'Ouest du pays a fini par convaincre les plus sceptiques que le Burkina fait face aujourd'hui à une campagne de déstabilisation. M. Bouda a tenu ses propos lors de la commémoration du 58e anniversaire des Forces armées nationales. Le point avec Morgane Guiriec.
Le bilan au cours de cette année 2018 est assez éloquent. De nombreux morts et blessés, des infrastructures économiques et sociales détruites, des populations déplacées et la paralysie de nombreuses activités économiques, a souligné le ministre, appelant à l'union de tous les fils et filles contre la menace terroriste. Le ministre de la Défense n'a pas précisé qui il voyait derrière cette campagne de déstabilisation, mais le président burkinabé, Rochmar Christian Kabore, a plusieurs fois accusé les nostalgiques de l'ancien régime de Blaise Compaoré de vouloir déstabiliser le pays. Une thèse jugée peu crédible par les experts et les diplomates pour qui les attaques sont perpétrées par des groupes djihadistes. Selon un bilan officiel établi mi-septembre, ces attaques ont fait 118 morts, 70 civils et 48 membres des services de sécurité.
Afrique de l'Ouest toujours, la transparence dans l'attribution des contrats dans les industries extractives en Afrique est un sujet qui fait débat dans plusieurs pays du continent. Lors d'une conférence internationale à Dakar mardi, le président sénégalais Macky Sall et son homologue Sierra Leonais Julius Maada Bio ont préconisé la publication des noms des réels propriétaires des sociétés minières pour, dit-il, promouvoir la transparence et éviter la corruption et l'évasion fiscale. Pour une réaction, Abdourahmane Dia a joint à Dakar Cheikh Diop, le secrétaire général de l'une des principales centrales syndicales du Sénégal, la CNTS-FC.
C'est même une revendication, une exigence des populations et de la société civile. La non-transparence de la propriété effective peut entraîner les fléaux que vous venez d'énumérer. La corruption, les transactions illégales, l'évasion fiscale et toutes sortes de dérives. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut effectivement la transparence dans la propriété effective des industries extractives et minières.
Mais les gouvernements ont quand même les moyens de savoir qui sont les vrais propriétaires, ou pourquoi est-ce qu'ils ne font pas voter des lois justement pour exiger que tous les noms soient connus, ou bien c'est un peu plus compliqué que cela?
Exactement, on se réjouit d'entendre le président Sall dire qu'il va introduire un projet de loi d'ici la fin décembre pour qu'effectivement les propriétaires de toutes les sociétés exerçant au Sénégal dans ce domaine puissent être connus et découverts par tous. Ceci est une excellente chose. Je pense que c'est exactement ce que les populations attendent pour éviter justement qu'il y ait des encagoulés dans le secteur pétrolier et minier.
Également, il y a cette question de réforme des codes miniers dans un souci de transparence, également pour augmenter la part des États dans les revenus des produits minéraux.
Oui, le nouveau code pétrolier n'est pas encore révélé au public. Mais nous pensons que ceci devait comporter des clauses qui renforcent les intérêts du Sénégal dans le domaine pétrolier et même minier. Aujourd'hui, des contrats sont déjà signés. Le président a promis de publier ces contrats. Mais ce que l'on peut retenir, tant que le système contractuel dans le secteur minier n'est pas revu fondamentalement, les pays africains, en général, les pays qui abritent des sites miniers sont toujours lésés.
Justement, c'est vrai que le nouveau code au Sénégal n'est pas rendu public pour l'instant. Est-ce qu'il y a des clauses qui on peut exiger à ce que ces sociétés-là puissent redistribuer une partie des revenus aux populations locales?
Oui, pour ce qu'on en sait, il y aura certainement une clause qui tienne compte de ce qu'on appelle les nouveaux droits citoyens pour les populations qui abritent les sites miniers. Mais il y a également une révision du partage dans le futur, que le partage dans l'exploitation, quand on entrera en plein dans l'exploitation pétrolière, que ce partage-là soit revu et que ce partage-là puisse s'opérer avec beaucoup plus d'avantages pour le Sénégal.
Le syndicaliste sénégalais Cheikh Diop à Dakar, au Sénégal.
VOA Afrique en direct de Washington.
En Égypte, au moins 19 avocats et défenseurs des droits de l'homme, 8 femmes et 11 hommes ont été arrêtés. C'est ce qu'a annoncé jeudi Amnesty International. Les détails avec Nani Talani.
Parmi les personnes arrêtées figure Oda Abdelmonem, une avocate âgée de 60 ans, ancienne membre du Conseil national des droits humains. Les forces de sécurité ont saccagé son domicile avant de l'emmener vers une destination inconnue. Mohamed Abdou Orira, avocat lui aussi et époux d'Aïcha Kaira Al-Shater, a également été interpellé, de même que deux autres hommes proches des frères musulmans. Selon l'avocat Abdelmonem Abdelmaksoud, deux des femmes arrêtées, Aïcha Kaira Al-Shater et l'avocate Oda Abdelmonem, sont actives dans le domaine de la défense des droits de l'homme. Auparavant, il avait fait état de l'arrestation jeudi de 8 femmes et 3 hommes proches des frères musulmans, dont la fille de Mohamed Kaira Al-Shater, l'un des chefs de la confrérie. Ces arrestations de défenseurs des droits humains ont poussé une importante ONG locale, la Commission égyptienne des droits et libertés, à suspendre ses activités, invoquant le climat hostile qui prévaut en Égypte aujourd'hui à l'égard de la société civile.
Relations États-Unis-Cuba maintenant. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté jeudi une résolution non contraignante appelant à la levée de l'embargo américain contre Cuba. Les États-Unis ont, pour leur part, tenté en vain de dénoncer les atteintes aux droits de l'homme dans l'île antillaise. Les précisions avec Irénée Hermann Ungbo.
La résolution a été approuvée par 189 pays. Comme en 2017, seuls les États-Unis et Israël se sont prononcés contre, tandis que l'Ukraine et la Moldavie n'ont pas participé au vote. La représentante américaine à l'ONU, Nikki Haley, avait présenté cette fois 8 amendements à la résolution cubaine, une tentative de diriger l'attention vers le bilan de la Havane en matière de droits de l'homme. Ces amendements n'ont pas reçu le soutien espéré par Washington. Seuls leurs alliés israéliens et ukrainiens ont voté en leur faveur, rejoint par les îles Marshall pour un amendement. Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a qualifié l'administration de Donald Trump de gouvernement de millionnaires imposant des politiques cruelles. C'est la 27e fois que l'Assemblée générale de l'ONU appelle ainsi à la levée de l'embargo économique et financier des États-Unis contre Cuba en place depuis 1962. La résolution présentée chaque année depuis 1992 n'est pas contraignante et n'a qu'une portée politique.
Relation Washington-Pékin pour terminer. Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ont respectivement fait part jeudi de leur optimisme quant à une résolution du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine. Donald Trump veut parvenir à un accord avec Xi Jinping lors du G20 qui se tiendra à la fin du mois à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. Dans un entretien lundi sur Fox News, le chef de l'exécutif américain a estimé qu'il était possible de conclu un grand accord avec la Chine sur le commerce, mais a prévenu que des milliards de dollars de droits de douane supplémentaires sur les produits chinois étaient prêts le cas échéant. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.